C'est 23.
Un condensé des meilleurs moments de Debout les comiques en format balado. Debout les comiques, juste le meilleur. Debout les comiques. 96.9. C'est quoi?
Marchand Valérie, tu vas nous parler de quelque chose que tu as vécu en voyage, justement, de quelque chose d'assez difficile.
J'en ris, mais honnêtement, j'ai failli en pleurer toute la semaine. Ça a été une semaine formidable. J'étais en République dominicaine, j'étais à Punta Cana.
Bravo
précisément.
Pour le soleil.
Ouais. Et d'ailleurs, je salue tous nos auditeurs qui j'ai croisés parce qu'eux, ils arrivaient pour la semaine de relâche.
En c'est là qu'ils étaient!
Hey man, ils étaient vraiment tous là. Est-ce que vous savez qu'à Punta Cana, ils appellent ça Punta Canada maintenant?
Ouais, non, ouais,
ben
oui,
ben oui, moi te le dire qu'il n'y a que des Québécois, c'est assez capoté.
C'est
cela dit, on était dans un resort. On était dans un resort absolument incroyable, super service, super belle météo.
Sauf.
Faut que je vous explique que ce voyage-là, à la base, ça devait être fait avec ma mère seulement et ma fille Lucie. C'est un voyage de girls. Alors donc, on avait déjà réservé une chambre où il y avait deux lits doubles.
Ouais.
Puis c'est une chambre où il y a une porte fermée à la chambre. Puis de l'autre bord, il y a comme un genre de petit salon cuisinette, si tu veux. Puis il y avait un divan-lit. Fait que le plan, c'était que ma fille dorme dans le divan-lit.
Ben oui.
Puis la porte se ferme comme ça quand elle adore. Nous, on peut continuer à vivre notre vie le soir. Et on avait chacun un lit double. Puis mon chum était de plus en plus jaloux de ce voyage-là, plus ça avançait.
Mm-hmm.
Puis en fait, à un moment donné, écoute, je vais venir.
Ah, y es-tu gossant?
Ben oui.
Y es-tu gossant?
Ça a commencé par « je te trosse pas tant ». Mais ceci dit, donc, vous étiez tous ensemble avec ta mère et...
Tout à fait. Fait okay. qu'on partageait tous la même chambre.
Okay.
Ce qui fait en sorte qu'il n'y a aucun enjeu là-dessus. On avait déjà voyagé ensemble. Mais moi, j'avais jamais partagé un lit double avec mon chum. Parce que je vous rappelle que ce qui avait été réservé, c'est deux lits doubles pour qu'on soit tout seul dedans notre lit double.
Ben oui.
Et moi, je me suis ramassée avec mon mari dans un lit double avec moi.
Il mesure combien, Martin?
Mon chum, il mesure 6 pieds 3.
Mm-hmm.
Et il serait très fâché que je le dise en nombre, mais il pèse 250 livres.
Oh, ça, fallait, c'est
ça
vrai,
fallait
c'est pas
aller.
Très, c'est pas
non,
très
mais ça, c'est pas élégant.
Mais de
ça,
muscles,
c'est...
de muscles.
OK. Ouais.
Mais sachez que, ça pour dire que, ce n'est pas un
du muscle.
C'est pas un petit humain, tu comprends?
Il est costaud, c'est un grand slack. Puis dans un lit double, pour vrai, c'est 72 pouces, je pense. On avait pris les mesures, là.
Ouais.
Martin.
C'est 73 pouces de long.
Il faut qu'on arrête
1m87.
De dire qu'un lit double, tu peux dormir deux là-dedans.
Je suis pas d'accord avec toi.
Man, je veux dire, c'est pas fait pour deux humains.
Attends, mais toi, t'as quoi? T'as un queen chez vous?
Moi, j'ai un king, man.
Lit king, là. Un lit king.
Jamais
c'est
en
comme...
bas d'un lit king. Arrête de
jamais en bas d'un lit king. Nous plus avons... qu'un lit king, je t'appelle, c'est la péninsule gaspésienne.
Ben nous avons toujours eu un lit queen, sauf depuis un an à peu près, on a changé pour un king.
Ah, mais c'est 16 cm entre le double et le queen. 16 cm, c'est rien, là.
C'est
ben, pas... 16 cm, c'est tout mon confort. Moi, je mesure 5 pieds
1. Ouais?
Hein? Je n'en prends pas de place dans le lit.
Mais c'est ça, ouais. Martin, tu es en diagonale un peu, tu dors en boule en haut, en boule en bas. Mais
va dormir, c'est le coin
deux spots.
J'ai jamais aussi mal dormi que la dernière semaine. Et je vous dis, je suis contre le principe du fucking lit double.
Pour vrai, pour toi, le lit double, ça serait éliminé du marché, là.
Hey, man, Gabin, on va t'expliquer quelque chose. Un lit simple, c'est pour une personne. Un lit queen, c'est pour deux personnes. Un lit king, c'est pour les gens qui veulent prendre de l'espace. Merci, bonsoir. Le double n'a pas sa raison d'être.
Le double, mettons que t'es en couple
le
avec
double
un...
n'a pas sa
mettons
raison
que t'es en
d'être.
Double, t'es en couple avec quelqu'un de ta grandeur, mettons, avec Dominique Sion, mettons. T'es en couple, là, toi puis Val, tu sais que dans un double, vous avez trop de place, là, les deux, là.
C'est sûr. Bon. Je comprends ce que tu veux dire.
Puis mettons que t'es un étudiant, mettons, tu viens de quitter la maison familiale, tes parents t'avaient acheté un lit simple, là tu t'en vas au cégep, tu veux t'émanciper, tu vas acheter un lit double parce que c'est moins cher qu'un lit queen, puis t'es dans un appart.
Exact.
T'as moins de place, ça fait un job. Pourquoi
les tuer? Un peu plus pour ton 16 cm supplémentaire, tu vas triper.
Moi, j'ai pas...
Marie-Christine Morneau de Valleyfield dit « Team Valérie, je bouge tellement, c'est terrible, mon chum veut plus jamais dormir en autre chose qu'un king. » Et ça, c'est un autre problème. Mon chum m'appelle Joe la bougeotte. Moi, je bouge la nuit.
Moi, là, j'ai pas les moyens d'un lit queen. Fait que, qu'est-ce que je fais? Je me contente d'un double. Puis je suis pas tout seul dans cette situation-là, Valérie. Je t'entends parler d'un lit king. J'entends parler de...
Attends.
super grande taille. Moi, c'est-tu qu'est-ce que je peux me permettre? C'est un lit double. Fait qu'est-ce qu'on fait? On se colle.
Arrête la musique.
On peut pas se réchauffer.
Arrête la musique.
Non plus.
Étienne, ouais. T'étais où en fin de semaine?
Ça te regarde.
T'étais où?
Pas. J'étais en vacances.
T'étais allé à Toronto en avion dans un hôtel super luxueux. T'as acheté des billets pour aller voir les
ça
Raptors.
Va?
Pas juste
ça
deux
va?
Billets,
tu
quatre
sens?
Billets.
C'est pas de tes affaires, ça. Nous, là.
Ferme, là.
On n'a pas les moyens de s'acheter.
C'est sûr que ça t'a permis de respirer en fin de semaine, le très grand king que t'avais.
À un moment donné, on est obligé de partir, puis on va se retrouver ailleurs pour enlever les tensions que ça crée le petit lit double. Mais on s'arrange avec ça, Valérie. Puis ça permet de sauver ce chauffage. Le soir, on a chaud en esti. Ça fait en sorte qu'on baisse la thermopompe. Puis on est mieux. Le vois-tu? Le vois-tu? Regarde, on a deux enfants.
Vanessa, sur la messagerie de texte, a dit « Les lits doubles, c'est pour les enfants. Ma fille de 8 ans dort très bien dans son lit double. » Exactement. C'est pour les bébés.
OK,
bébés,
arrête,
là,
arrête, arrête. C'est quoi les odds que j'aille dormir dans ton lit king avec ma blonde une nuit puis que tu viennes dormir avec Martin dans mon lit double?
Sérieux? Je vais faire les odds pour le principe de faire les odds. Mais je te dis, si je fais les
odds... Attends, vous échangez de maison une nuit?
Je te jure, je m'excuse à toutes les... Je vais être en tabarnak. Je déteste! Je te dis, je viens de passer une semaine infernale.
Ah ouais, hein?
Fait que c'est quoi les odds qu'on échange de maison?
OK, ben vas-y. C'est
le
sur
lit,
combien?
Le lit.
Juste... Sur 30, parce que je suis trop
okay,
proche.
Sur 30. Hey,
attends, je suis trop proche de la réalité du lit double. Ça me fait encore mal.
OK. 3, 2, 1, 2.
Les comiques, de retour après ceci.
Debout les comiques. 96.9, c'est quoi?
Le podcast Debout les comiques.
Hier, il y a une nouvelle qui est tombée, une nouvelle qui m'a pas tellement surpris. Le groupe Juste pour rire qui se met à l'abri de ses créanciers. J'ai trouvé ça triste.
Ouais.
Triste pour plein de raisons, parce que c'est un vaisseau amiral de la culture québécoise qui s'effondre ce matin. Il s'effondre pour plein de raisons, pour des raisons que vous connaissez, des raisons donc en lien avec la controverse, pour dire le moins, autour de Gilbert Rozon. Mais entre autres. Mais ça fait longtemps que ce vaisseau-là s'effrite un tout petit peu, dans le sens où les galas Juste pour rire, qui ont longtemps été la vache à lait, littéralement, de ce festival-là, ça a perdu de son lustre, les galas, avec le temps. Dans les dernières années, avant même qu'il arrive le scandale, ça commençait déjà à être une formule qui s'essoufflait, même auprès des diffuseurs, et c'est probablement la vitrine la plus importante que le festival avait. C'est ce qui m'a fait rêver de devenir humoriste, le festival Juste pour rire. Moi, quand en 85 ou 6, quand ça a commencé, le festival Juste pour rire, puis que je voyais les premières éditions et que je voyais les comiques de l'époque qui œuvrait sur scène, c'est clairement ça qui est devenu un objectif pour moi d'aller me faire adouber littéralement, l'espèce de bénédiction que tu reçois mettant le pied sur cette scène-là, qui fait que t'es reçu parmi les humoristes quand tu réussis à aller au festival Juste pour rire. Malheureusement, ceci n'existera plus. On veut ramener le festival à l'été 2025, mais il n'y a rien de plus périlleux que quelque chose qui perd sa nature puis qui perd son âme. Malgré tous les défauts que Gilbert Rozon peut avoir, il était quand même le moteur en arrière de ça, puis on s'en rend compte aujourd'hui. C'est difficile de porter un événement comme celui-là quand il sort de la tête de quelqu'un de spécifique puis que ça marche par ses balises à lui dans sa tête. Je dis pas que son parcours est exemplaire, puis ça a toujours été le fun de le côtoyer en affaires même, pas nécessairement, mais ça n'empêche pas que le festival Juste pour rire, il y a des réalisateurs qui sont nés là, il y a des metteurs en scène qui sont nés là, il y a des artistes qui sont nés là, il y a des gens pour qui c'était deux semaines de revenus dans l'année, qui comptabilisaient, puis que c'était important dans leur montage financier. Je pense à des milliers d'artisans de l'ombre qui travaillent en dessous, des travailleurs de rue, des gars qui vendent de l'eau l'été sur les sites de festivals, ben là, ils ont perdu comme deux semaines parce que la gig est plus là. Je pense à tous ces petits travailleurs-là de l'ombre et à tous ceux que ça faisait rêver. Je trouve ça plate qu'on perde un bateau comme ça, puis qu'on perde un phare comme ça, mais en même temps, peut-être que ça va nous ramener vers quelque chose d'autre. Peut-être qu'on va retrouver une nature plus simple, une nature plus proche des gens. Est-ce que le festival va avoir la même ampleur qu'il y a déjà eu? Je ne pense pas. Même en 2025, ça prendrait vraiment un joyeux fou qui repartirait une affaire comme ça.
En tout cas, si
c'est
ça prend...
toute une aventure, mais c'est mille personnes qu'il faut qu'ils veuillent pour que ça marche.
Si ça prend autant d'ampleur, ça va en prendre différemment. la formule des galas, la formule d'avoir la possibilité d'avoir ce standing-là, ça n'existe plus, tu sais. De nos jours, là, t'as toutes les salles pour pouvoir roder, puis le ce qui est le plus hot, c'est lancer ton one-man show puis partir en tournée, tu sais. J'ai pas l'impression que c'est les galas ou quoi que ce soit qui peut ramasser du monde en même temps.
Pour qu'un festival comme ça marche, faut que t'aies l'assentiment du public puis que t'aies l'assentiment du milieu. Je pense qu'il manquait un petit peu des deux les dernières années. Mm. Puis c'est un peu pour ça que le festival Juste pour rire a pas marché.
C'est quand même.
Marche plus. Mais c'est vraiment triste parce que, je le dis, c'est on le mesure pas. Puis il y a un dollar investi en culture. C'est pas un dollar qui est perdu. Là, c'est un dollar qui se multiplie. C'est prouvé. Il y a 1000 études qui le disent. Fait qu'il y a des gens qui chialent sur les subventions qui étaient données au festival. Mais il y en a plein de ces subventions-là. Puis c'est fait pour ça, pour générer de l'activité économique. Et Montréal perd vraiment, vraiment un ambassadeur immense avec la perte de Juste pour rire.
Le podcast Debout les comiques.
7h02, on est en compagnie de PC Jolicoeur ici. Et ce qu'on apprend ce matin en jasant avec PC, c'est qu'il magasine au Costco, PC.
Oui. Honnêtement, je pense que toute mon épicerie se fait chez Costco.
Ah oui? Ah oui.
T'habites à combien chez vous?
J'ai quoi? Un. J'habite à un.
Et bon, tabarnouche, parce que moi...
Une affaire de base.
J'arrive jamais à passer mais tout le stock de Costco.
Faut que tu congèles un petit peu, absolument. Mais sinon, mon cher PC, donc la mésaventure, pas la mésaventure, mais l'histoire que tu nous racontes ce matin, ça t'est arrivé au Costco, un client que t'as rencontré comme ça en faisant un fil pour aller payer, t'as le temps.
Tu sais, ouais, c'est parce que ça arrive pas mal partout à cette heure que je me fais comme reconnaître. Puis des fois, justement, comme au Costco, il y a souvent du monde, beaucoup. Puis il y avait comme quelqu'un que j'ai croisé comme 2-3 fois, puis je le sentais qu'il m'avait reconnu. Puis un moment donné, il s'en vient me voir. Puis il dit, hey, PC, il dit, mais c'est drôle que je te croise parce qu'il dit, justement, mais je veux te contacter. Mais là, il dit, je pense que je vais attendre à peu près 3 mois parce que mon renouvellement, il dit, c'est en juin, fait que je vais attendre comme mi-mai. Fait que là, moi, directement, je suis comme, honnêtement, je suis content que tu prennes le temps de me le dire tout de suite parce que moi, je te dirais qu'on pourrait peut-être se parler comme bientôt parce que généralement, en début d'année, à partir du mois de janvier, mais les institutions financières permettent de geler les taux jusqu'en juillet vu qu'ils savent que les gros déménagements puis les renouvellements, c'est entre mai puis juillet. Fait que je suis comme à l'inverse, mais t'aurais tout à gagner de probablement te préparer d'avance pour qu'on puisse faire comme le bon plan de match. Puis là, il dit oui, mais je veux attendre qu'on voit avec la banque du Canada, qu'est-ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont baisser les taux, etc. Mais lui, il commence à me dire qu'il voulait absolument un taux fixe. Fait que je suis comme oui, mais j'ai dit justement, parce qu'un taux fixe, pas un taux variable, puis je commence à dire brièvement, en plein milieu du Costco, bien évidemment.
Ben ouais.
Je suis comme, on va faire ça simple, mais justement, c'est parce que le taux fixe bouge pas en fonction du taux directeur, ce qui veut dire qu'à chaque annonce, comme là, mais il y en a eu une hier qui disait que le taux était maintenu.
Ouais.
Mais justement, ça veut pas dire que le taux fixe va bouger, tu sais, du sens que...
Ça n'a pas de lien entre les deux.
Aucun lien, parce que le taux directeur fait bouger le taux variable. T'sais, le taux variable moyen, en ce moment, est à 6,5, 6,7. Puis le taux fixe, on est à 5,2. Pourtant, il y a 3-4 mois, le taux fixe était à 6,5. Fait que le taux fixe a déjà beaucoup bougé, mais pas le taux variable. Fait que là, essaye d'expliquer ça vite. Là, le gars, il commence à dire, non, mais tu sais, moi, je connais ça, puis c'est mes parents qui m'ont dit de faire ça, toute la quête. Parce que le gars, il était pas super vieux. Je suis comme, oui, c'est correct. Mais tu voyais qu'il a quand même assez mal pris, le gars.
Ouais,
vraiment, j'étais quand même surpris, mais je sais pas si c'est parce qu'il était avec sa blonde ou quoi que ce soit.
Mais dans un Costco, on est tous un peu quand même sur le gun, là.
Ouais.
C'est comme contre toi, pas
cette journée-là, il y avait quand même du monde.
Mais c'est ça, là, je peux comprendre.
Ouais.
Mais peut-être que parce qu'on a des idées préconçues par rapport à, justement, la gestion de ça, pis on n'est pas des experts là-dedans, tu comprends? Fait que, tu sais, moi, j'ai une façon de voir les affaires, puis si tu me contredis là-dedans, ça se peut que ça me confronte, peut-être, tu sais. Mais je suis pas l'expert, ça, c'est dit, je le reconnais.
Mais il y avait deux choses. Il y avait le fait, je disais, tu prends en avance. Puis ce qu'il m'a dit, c'est qu'il m'a dit, ah ouais, mais vous autres, mais les courtiers, tu sais, vous voulez qu'on se prenne d'avance pour que. Mais là, j'étais comme pantoute.
Mais c'est ça. Moi, j'ai toujours pensé que ça se faisait à la dernière seconde et que c'était facile jusqu'à mon renouvellement hypothécaire l'année dernière qui a été vraiment compliqué. Fait que Danny de Lavaltrie pose la question sur la messagerie texte. La vérité, là, c'est que combien de mois avant son renouvellement d'hypothèque, il faut magasiner, à peu près, là, de manière générale.
Normalement, à partir de 120 jours, on peut venir geler des taux. Fait que, à partir du moment que tu peux geler 90 à 120 jours, c'est vraiment le best. Parce que, exemple, le processus, t'sais, avec ta propre banque, toi, c'est un clic, tu peux venir le renouveler direct.
Ouais, mais si tu veux magasiner,
c'est ça,
de nos jours, c'est avantageux aussi.
C'est ça, parce que le processus total va prendre à peu près un mois. Si, mettons, il faut qu'on te transfère, etc. Fait que de se prendre d'avance...
Puis toi, mettons, au jour 119, je gèle un taux, puis j'arrive 119 jours après, puis c'est amélioré. Je suis pas pogné avec le taux de 119 jours.
C'est vraiment ça, l'avantage. Ben, c'est que t'as le meilleur, mais des deux monde, puis l'avantage que t'as, c'est que même, exemple, en taux variable, parfois, on se dit, oui, mais c'est des taux qui sont variables, fait que ça varie, mais les rabais sur les taux, tu peux venir les geler quand même.
OK. Est-ce que tu offres d'autres conférences au Costco bientôt?
Ouais, c'est à tous les dimanches, une fois par mois, entre
à côté
deux
des
allées.
Ouais, sans déguste.
Mais on te garde avec nous, PC, parce que nos auditeurs ont plein de questions pour toi. On te pose ces questions-là. PC Jolicoeur, spécialiste hypothécaire, ici, au 96.9. C'est quoi? On revient dans 30 secondes. 7h07 au 96.9, c'est quoi? Je suis en train de dire à PC que j'étais un anxieux puis que je prends toujours un taux fixe puis il a un peu ri de moi. Non, mais ça me rassure, mais bon, c'est chacun de nos stratégies. PC, il y a Alexandre Couture, il demande, il dit, j'ai un projet d'agrandissement sur mon domicile, mais je veux pas ouvrir mon prêt hypothécaire puisque le taux actuel est très bon, celui que j'ai. Quelles sont mes options pour pouvoir faire mon projet, considérant qu'il me reste encore 2 ans et demi avant le renouvellement de mon hypothèque?
La meilleure stratégie dans ce cas-là, ça serait de contacter ton institution financière directement, tu vas faire une deuxième tranche hypothécaire parce que ils peuvent t'ouvrir généralement.
Aux mêmes conditions.
Ben, ça va être aux conditions d'aujourd'hui, mais tu vas garder, exemple, que tu as 200 000 sur, mettons, 1,8 ou whatever, le taux qui est probablement meilleur que le taux actuel. Mais si, exemple, qu'à la valeur, on va dire qu'il doit 200 000, la valeur vaut 500 000, fait que techniquement, on peut aller 80%, fait qu'on peut aller jusqu'à 400 000. Fait qu'il pourrait contacter sa banque, puis mettons qu'il a besoin de 100 000 pour ses rénovations, faire une tranche à côté, fait qu'un autre hypothèque avec les termes du jour, fait qu'il va avoir son hypothèque qu'il a pris, mettons, avec ses termes à l'époque, plus les nouveaux termes en date d'aujourd'hui. La seule chose que je suggère, que les conseillers, souvent, ils prennent pas le temps de m'expliquer, c'est de s'arranger que les deux termes finissent pratiquement en même temps. Parce que si à ton renouvellement... Parce que sinon,
tu vas les mettre ensemble à ce moment-là.
Exact, parce que sinon, tu vas toujours être rattaché avec cette même institution financière-là, puis peut-être qu'à ton renouvellement, ils seront pas aussi agressifs que là, ils sont.
Ça donne la souplesse pour négocier à ce moment-là.
C'est une question qui vient de rentrer sur la messagerie. C'est Carole qui demande s'il faut repasser chez le notaire si on change d'institution pour notre hypothèque.
Oui, exactement. Mais par contre, tout dépendamment, si c'est juste un renouvellement, ça s'appelle un transfert. Fait que ce qui veut dire que l'acte, mettons, de notaire est beaucoup plus simple. Fait qu'il y a des institutions financières dans beaucoup de cas qui viennent le payer. Exactement.
Ah, OK, parfait.
Ouais.
Exactement.
Emmanuel Lompré de l'Épiphanie. Elle dit, moi, je vais renouveler en juin. On m'a offert 4,985 ans fixes. Alors, sa question, c'est, est-ce que je devrais attendre en mai, donc très près de sa date de renouvellement, pour renégocier mon taux, et signer pour un taux de 5 ans ou 3 ans, admettons que ça baisse dans les prochaines années?
C'est sûr qu'en ce moment, tu sais, c'est un peu le débat, c'est du cas par cas, justement, qui revient à ce que tu disais, Martin, que toi, tu prends toujours du taux fixe 5 ans. Il y a beaucoup, beaucoup de 3 ans qui se fait en ce moment, mais d'attendre dernière minute, c'est peut-être pas la meilleure des stratégies. Peut-être d'être comme conseiller aujourd'hui, savoir est-ce que je prends 3 ou 5 ans, parce que ça, entre aujourd'hui puis ta date de renouvellement, la stratégie devrait pas changer. Peut-être que le taux va changer, mais de venir l'établir d'avance, parce que surtout, si c'est du 5 ans fixe, c'est important de comprendre les implications du taux, parce que 5 ans, ça peut être long.
Il y a Lauriane, elle a une question pour toi, PC. Elle dit, j'ai une question. Moi et mon conjoint, on aimerait s'acheter une maison l'année prochaine, mais j'aimerais aussi m'acheter un nouveau véhicule, puisque celui que j'ai actuellement me coûte trop cher d'assurance. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que je vais être pénalisé?
Mais tout est une question de paiement. Ce qui veut dire que si tu changes pour acheter une voiture qui va te coûter plus cher par mois, ben oui, c'est sûr que ça peut être pénalisant, parce que même si c'est niaiseux à dire, puis des fois, c'est pas tant logique, là, mais tu sais, comme le coût d'assurance d'une voiture n'est pas comptabilisé dans les ratios d'endettement, ce qui veut dire que même si ton paiement de voiture actuellement te coûte moins cher par mois, mais un petit peu plus cher d'assurance, peut-être plus bénéfique qu'à l'inverse, il te coûte plus cher par mois, mais moins cher d'assurance. Fait que c'est du cas par cas, ça serait important de voir en fonction des revenus puis des dettes.
Ça marque pas dedans. Il y a quelqu'un qui écrit sur la messagerie texte, c'est Pierre Perron. Il dit, c'est quoi qui se passe si on fait rien avant la date butoir? Est-ce qu'il y a des conséquences pour vrai? Mettons que tu laisses tout aller.
Mais ça, c'est une excellente question, parce que des fois, le monde panique, parce que justement, il y en a qui se prennent comme dernière minute, puis là, tu tombes en prêt ouvert généralement. C'est pas dans tous les cas, parce qu'il y a certains prêteurs qui te renouvellent fermé 6 mois, fermé 1 an, mais généralement, tu vas tomber en prêt ouvert. Ce qui veut dire qu'exemple, que le taux variable, t'es à 7%, tu vas tomber à 9, mais à tout moment, tu peux changer de banque ou tu peux finaliser sans pénalité.
T'es comme un agent libre à ce moment-là.
Exact. T'es comme, c'est un attendant, t'es là-dedans, mais l'avantage, c'est que t'as pas de pénalité.
Hey, moi, j'ai une dernière question qui est, est-ce qu'on peut vraiment négocier avec une institution? Tu sais, je prends l'exemple de Desjardins. Ouais. Est-ce qu'il y a un pouvoir de négociation pour les taux? Est-ce que, en tant qu'individu, je peux aller voir puis essayer de les faire bouger?
Pas vraiment. Pour être franc, c'est un peu comme une illusion, du sens que, tu sais, généralement, tu vas avoir un taux affiché qui appelle, mais mettons, tu t'en vas dans ta banque, mais ils vont te donner un taux. Mais le taux qu'ils te donnent, ils peuvent peut-être te dire que c'est négocié, mais c'est, tout le monde a un peu la même chose. C'est plus d'avoir entre les différentes institutions, parfois, là, il va venir avoir un gap entre chaque banque, mais de dire que je vais aller négocier mon taux puis je vais aller, tu sais.
Ça existe pas vraiment.
Non, en fait, j'arrête de vous envoyer des contre-offres, moi, là.
là-bas.
Absolument. Parce que tu tombes dans leur dossier poubelle. Merci infiniment à PC Jolicoeur. Ben, c'est toujours intéressant. PC Jolicoeur avec nous à chaque jeudi ici dans Debout les comiques.
Des comiques de retour dans un instant.
Debout les comiques. 96.9, c'est quoi?
Le meilleur des comiques sur demande.
Écoute-moi, ben, m'a raconté une histoire à Montmartin, Étienne Val, elle écrirait pas ça. À un moment donné, j'ai fait un show, OK? Puis le gars qui nous engageait, il nous a offert, pour sauver les frais de chambre d'hôtel, de nous loger chez eux. Okay. Et là, il y avait une grande maison, là, tu sais, avec plein de chambres. On avait toute une chambre.
Oh, quand même!
Mais il y avait surtout un très grand cellier.
Oh, mon
Dieu! Là, la soirée, elle fun, on était une belle gang.
Ça, ça se dit-tu?
Non, je le dis pas, je dis pas ça. Je garde ça pour moi. On était une belle gang, on boit du vin. On boit du vin, tu sais. La seule affaire, c'est qu'on sait pas ce qu'on boit. Oui, ben moi, dans ce temps-là, ben, je prends des photos des bouteilles que j'aime.
Oui.
Et le lendemain, je m'en vais fouiller pour trouver ce que j'aime. Puis aussi, d'en racheter à la personne hein, parce que pour dire merci. Parce que moi, j'ai pour mon dire que c'est pas parce que t'as de l'argent dans la vie que t'es obligé de tout donner
ben non.
De tout payer. T'sais.
Ben oui, exact.
Fait que là, je me suis rendu compte qu'on a bu des bouteilles à 100$.
Oh,
200$.
Non, ben non! Lui, il avait une collection, là.
On n'a pas bu de la merde, là. Moi, j'avais jamais bu ça, des bouteilles à 100$. Et là, j'étais comme, mais voyons donc. Hey, mes dents, ils étaient encore rouges. Ils valaient une fortune, Martin, tu comprends?
T'as-tu pensé à les arracher pour les vendre sur le marché
noir?
Non,
je me suis pas rendu. Ah,
mais
là,
la personne en question était pas là, là. Lui, il a juste...
Oui, oui, la personne était là. Elle était là avec nous autres, mais tu sais, je veux dire...
Elle disait rien, là. Elle était
chaudaille. Non, c'était comme... c'était de grande générosité, okay. Tu sais. Et là, moi, je continue mes recherches, puis là, je fouille, puis là, je fais comme, OK, ça, c'est cool. Mais là, il y en avait une qui était pas à la SAQ. Fait que là, je me suis mis à fouiller, je me suis rendu compte que ça venait d'une importation privée.
Épalage.
Je me suis dit, ah, le beau défi. Fait que là, je me suis mis à fouiller, et là, quand j'ai vu que c'était plus compliqué, j'ai écrit à mon ami Philippe Lapéry, que vous devez connaître, qui est un sommelier au Québec. Et là, il me dit, appelle tel gars. Puis là, ce gars-là me dit, appelle tel autre gars. Puis là, ce gars-là me met en contact avec un autre gars qui est en Italie, puis qui s'appelle Serge, tu sais. Fait que là, j'écris à Serge en Italie.
Pendant le party, là.
Non, là, on est le lendemain. Okay. Et là, j'écris à Serge qui est en Italie en expliquant mon histoire, puis mon parcours, pourquoi je me suis, comment j'ai fait pour me rendre jusqu'à lui. Puis là, Serge me répond en me demandant si c'est moi la chanteuse.
C'est non, ben drôle.
Je suis comme, mais voyons, non, ça n'a pas de bon sens. I'm famous in Italy. Fait que là, il me dit qu'en me répondant, il est en train d'écouter ma musique. Là, je suis comme, what the...
Voyons!
Ouais, c'est ça. Et là, Serge, il dit, il me met en contact avec le gars qui s'occupe d'importer ce vin-là au Québec.
Okay.
Je le contacte et comme par magie, le gars venait de recevoir sa commande. Puis qu'il y a le vin que je cherche. Okay. Là, je commande les bouteilles. Là, on se donne rendez-vous chez eux parce qu'il fait ça chez eux.
Okay.
Puis là, quand j'arrive pour aller chercher les bouteilles, il me demande, il dit, comment t'as fait pour connaître ce vin-là? Fait que là, je vais tout y raconter l'histoire, tu sais. Puis là, il dit, hey, c'est drôle. Il dit, puis là, 10 minutes, j'étais avec ce gars-là, tu sais. Puis il dit, il m'a fait une commande en me disant qu'il y avait une chanteuse qui avait vidé son cellier.
Mais toi, tu voulais remplir son salier.
C'est malaise! J'étais comme, en même temps, j'ai dit, OK, tu dis rien, là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que j'en suis
donc bien drôle.
Ah, c'est bien.
Mais à quel point tu peux avoir plein de points de hasard comme ça?
C'est fou!
Une seule et même histoire.
Et en plus, le gars, il finit par me dire, hey, Philippe Lapéry, il dit sa gérante, elle habite en face. J'étais comme, mais voyons, non, ça a tout bon sens.
Mais là, mais elle coûtait combien, la bouteille de vin, ça se dit-tu?
Elle coûtait 100$.
OK, quand même.
C'est pas super.
Elle était rare, fallait pas la faire venir en importation privée.
Oui, c'est ça, exactement.
Oh. Hey, 100$, c'est pas si pire. C'est 92
ben,
piastres des miennes, ça.
Ouais. Non, mais c'est ça. T'sais, moi, je suis genre 20 piastres quand je me garde 25-30, là, mettons.
Hey.
Là, tu fais comme, wouh!
J'avais eu ça, moi, une bouteille de vin.
C'était délicieux.
Mon ancien gérant était un connaisseur de vin, vraiment. Puis il m'avait donné, comme pour mon cadeau de fête, une bouteille de vin que je gardais pour une grande occasion.
Ouais.
L'été après, ma fête est à l'automne, mais je bois rarement. L'été suivant, je fais une épichette de blé d'Inde. À un moment donné, je me revire. Puis j'ai un ami qui est chaud d'ail, qui avait juste besoin de se relancer. Puis, il a les dents rouges, en train de manger un blé d'Inde. Puis la coupe de vin, mon vin, de 100 piastres.
Hey, c'est terrible.
C'est épouvantable.
C'est épouvantable.
Là, ouvrez pas les celliers si c'est pas à vous.
Exactement.
Donnez-moi la permission, c'est épouvantable.
Effectivement. Ouvrez jamais les celliers de personne.
Le podcast Debout les comiques.
C'est 23.